Daf Samech Alef Amud Bet, on commence le sixième Perek. Hadar ima akum bachatser o immi sheno mode beiruv areze oser alav. Celui qui habite avec un goy dans la cour, ou avec quelqu'un qui ne reconnaît pas le principe de iruv, celui-ci lui interdit de porter dans la cour. Donc ça veut dire que si on a un juif qui habite dans la même cour qu'un goy, même s'il y a un seul juif et un seul goy qui habitent dans cette cour, le juif ne peut pas porter, comme on verra dans la Gemara, tant que il n'a pas loué la propriété du goy. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire un hérouve avec le goy. Il n'y a pas de possibilité non plus de bitoul rechout, de renoncement à sa propriété. Le goy ne peut pas renoncer à sa propriété. C'est une possibilité qui existe pour le juif. On avait déjà vu qu'un juif qui a oublié de participer au hérouve, il peut renoncer à sa propriété en faveur des autres habitants de la cour. Pour un goy, c'est pas possible. La seule possibilité, c'est de lui louer sa propriété. Pareil pour quelqu'un qui ne reconnaît pas le principe du hérouv. Ça veut dire ici, il s'agit d'un kouti. Ou quelqu'un qui vient du peuple de Kouta, qui s'était converti au judaïsme, mais qui n'acceptait pas, donc, toutes les xérodes des Chachamim. Donc, il ne reconnaissait pas le principe de hérouv. Eux aussi, ils interdisent de porter tant qu'on n'a pas loué leur propriété. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Leolam eno oser ad shiyu shnei Yisraelim osrim ze al ze. Un goy n'interdit aux juifs de porter que à partir du moment où il y a deux juifs qui habitent déjà dans cette cour et qui s'interdisent mutuellement de porter tant qu'ils n'ont pas fait de hérouv. À partir du moment où les juifs qui habitent là-bas doivent faire un hérouv entre eux, c'est là que le goy leur interdit de porter. Mais tant qu'il y a un seul juif qui habite là-bas, donc il n'a pas besoin de faire de hérouv, le goy ne l'empêche pas de porter et il n'a pas besoin de lui louer sa propriété. La Gemara expliquera pourquoi. Quelle est la différence entre un juif ou deux juifs? Amar Rabban Gamliel, Rabban Gamliel a dit, Maase betzduki echad shayadar imanu bemavoy birushalayim. Il est arrivé une histoire avec un tzduki qui habitait dans le même mavoy que nous à Yerushalayim. Ve amar lanu abba, et notre père nous a dit, Maaru veotziu et akelim lamavoy ad shelo yotzi veyaser alechem. Dépêchez-vous de sortir les kelim, les objets dans le mavoy, avant que le tzduki les sorte et qu'il vous interdise de porter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Rabban Gamliel est venu ici s'opposer à la vie de Tanakama. Tanakama, comme on a dit, considère que un kouti qui ne reconnaît pas donc le principe de Hérouv est considéré comme un goy. Et donc la seule possibilité, c'est de lui louer sa propriété. Et ça veut dire que d'après Tanakama, le kouti en réalité il a un statut de juif, mais comme il ne reconnaît pas le principe, parce qu'il a fait une guéroute, il s'est converti, mais comme il ne reconnaît pas le principe du hérou, parce qu'il n'accepte pas les paroles des chachamim, donc il a le même statut que le goy, il faut lui louer sa propriété. Rabban Gamliel n'est pas d'accord avec ça, et il dit qu'il y a une différence entre un kouti et un tzduki. Donc un kouti, comme on a dit, c'est quelqu'un qui s'est converti, mais là, effectivement, Rabban Gamliel pense qu'il est considéré comme un goy, mais pas comme Tanakama parce qu'il ne reconnaît pas le principe de hérouv, mais parce que Rabban Gamliel pense que la conversion des koutim n'est pas une bonne conversion, et donc il est considéré effectivement comme un goy. Par contre, un tzduki, qui là, c'est un juif, seulement il a rejeté les paroles des Chachamim, il ne reconnaît pas l'autorité des Chachamim et la Torah chez Baalpé, donc là, il pense qu'il n'a pas le même statut qu'un goy, et que pour un tzduki, même si effectivement il peut pas faire de hérouv, parce qu'il ne reconnaît pas le principe de hérouv, donc il peut pas participer au hérouv, on peut pas simplement prendre du pain du tzduki pour faire un hérouv, mais il peut être mevatel reshut, donc il peut renoncer à sa propriété en faveur des autres juifs qui habitent dans la cour ou dans le mavoy. Et donc c'est ce que Rabban Gamliel rapporte comme témoignage, il dit il y avait un tzduki qui habitait dans leur mavoy, et son père, donc Rabban Shimon Gamliel, leur a dit, dépêchez-vous de sortir les kelim dans le mavoy, dès l'entrée de Shabbat, avant que le tzduki ne sorte ses objets et qu'il vous interdise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le tzduki avait renoncé à sa propriété en faveur des autres habitants juifs du mavoy, et comme il a renoncé à sa propriété, si il sortait des objets de sa maison vers le mavoy, donc ça serait comme revenir en arrière sur sa décision de renoncer à sa propriété, donc comme s'il se réappropriait sa propriété, et donc il leur interdirait de porter. Mais à partir du moment où eux ont été les premiers à sortir de leur maison vers le Mavoy, des objets, donc ça veut dire que ils ont déjà pris possession de sa propriété à laquelle il a renoncé, et donc là, il peut plus revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit, dépêchez-vous de sortir des objets, comme ça, vous prenez possession de sa propriété à laquelle il a renoncé, et il peut plus revenir en arrière. Et donc, on comprend de ce que Rabban Gamliel dit, que il n'est pas considéré comme un goy, parce que s'il était comme un goy qui lui avait loué sa propriété et qu'il n'avait pas simplement renoncé, une fois qu'ils lui ont loué sa propriété, il ne peut pas revenir en arrière puisque ils lui ont donné de l'argent. Donc jusqu'à la fin de Shabbat, il ne peut pas se rétracter, et donc là, il n'aurait pas eu besoin de se dépêcher de sortir des objets, parce qu'à partir du moment où ils ont loué sa propriété, il ne peut plus se rétracter. Rabbi Yehuda Omer, Belashon Acher, Rabbi Yehuda rapporte dans d'autres termes ce que donc Rabban Shimon Gamliel a dit à ses enfants, Ma'arou va'asut sorkechem mavoy, ad shelo yotzi ve'yesor alechem. Il leur a dit, dépêchez-vous de faire ce que vous avez besoin dans le mavoy, ça veut dire, Rashi explique, avant Shabbat, avant qu'ils ne sortent ces objets et qu'ils vous interdisent de porter. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda pense que même s'ils ont déjà, eux, sorti des objets de leur maison vers le mavoy, malgré tout, celui qui a renoncé à sa propriété peut encore se rétracter en sortant des objets de sa maison vers le Mavoy. S'il sort des objets de sa maison vers le Mavoy, ça sera comme se rétracter, et donc eux ne pourront plus porter. Donc c'est pour ça qu'il a dit, ça sert à rien de se dépêcher de sortir des objets juste pour faire un acte de prise de possession de sa propriété, mais c'est pour ça qu'il leur a dit, faites tout ce que vous avez besoin, n'attendez pas parce que il risquerait de se rétracter, à ce moment-là, vous ne pourriez plus porter. La Gemara dit, Yativ Abaye Baravin, Rav Chinana Baravin, Yativ Abaye Gabayhu, Yadve Vekamre. Abaye Baravin et Rav Chinana Baravin étaient assis, et Abaye était assis à côté d'eux, et Abaye Baravin et Rav Chinana Baravin étaient en train de discuter ensemble. Et il disait, Bishlama Rabbi Meir Kassavar, Dira Tovet Kochavim Shema Dira, Veloshnachad, Veloshnatre. Donc il disait, on comprend bien l'avis de Rabbi Meir, c'est-à-dire l'avis de Tanakama de la Mishnah, Stam Mishnah Rabbi Meir, donc c'est Rabbi Meir. Donc on comprend bien l'avis de Rabbi Meir, c'est parce qu'il pense que Dira Tovet Kochavim Shema Dira, l'habitation d'un goy est considérée comme une habitation, c'est-à-dire le fait qu'il ait une maison dans cette cour, ça lui donne une propriété dans la cour. Et donc il n'y a pas de différence s'il y a un juif qui habite dans cette cour ou s'il y a deux juifs qui habitent dans cette cour. Dans tous les cas, ce goy va empêcher le juif de porter tant qu'on ne lui a pas loué sa propriété. Pourquoi ? Parce que, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, à partir du moment où il y a deux habitants dans la cour, et que la cour est commune aux deux, et chacun donc a sa maison qui est une maison qui est sa propriété qui lui est propre, qui est seulement à lui, et quand il sort dans la cour est commune, donc il y a un changement de propriété, c'est comme ça ressemble à sortir du Reshut Ayachid au Reshut Arabim. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit de porter de sa maison vers la propriété commune si on n'a pas fait de Hérouv. Donc là aussi, à partir du moment où on considère que l'habitation du Goy est considérée comme une habitation, c'est-à-dire que ça lui donne un droit sur la cour, donc la cour est aussi commune aux Juifs et aux Goy. Donc dans tous les cas qu'il y ait un juif ou deux juifs, il n'a pas le droit de sortir du Reshut Ayachid de sa propriété privée, de sa propre maison, vers la propriété commune de la cour, tant qu'il n'a pas loué la propriété du goy. Et là, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maïka Sava. Mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il pense? Donc ça veut dire Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a fait la distinction entre le cas où il y a un seul juif qui habite dans la cour et le cas où il y a deux juifs qui habitent dans la cour. Mike Kassavar, qu'est-ce que lui pense? Il Kassavar dira Tovet Kochavim Shema dira Afiluchad Naminitsa. S'il pense que l'habitation d'un goy est considérée comme une habitation, c'est-à-dire ça lui donne un droit sur la cour, donc la cour est commune au goy aussi. Donc même s'il y a un seul juif, ça devrait lui être interdit de porter de sa maison vers la cour tant qu'il n'a pas loué la propriété du goy. Veilo Shema dira, et si l'habitation du goy n'est pas considérée comme une dira, ça veut dire qu'elle lui donne pas un droit sur la cour, même s'il y a deux juifs là-bas, il ne devrait pas être interdit, parce que le goy n'a pas de part dans la cour, donc la cour est commune seulement aux deux juifs, et eux ont fait un hirouv ensemble. Amar Lehu Abaye. Abaye réagit en entendant cette discussion entre Abaye Baravine et Rafrina Baravine. Il leur dit, Vesava Rabbi Meir dira takum shema dira. Mais est-ce que Rabbi Meir pense que l'habitation d'un goy est considérée comme une habitation et lui donne un droit sur la cour? Vatania, pourtant, enseignant à Breta, Chatzero Shalovet Kochavim, Areu Kedir Shal Behema, que la cour d'un goy est considérée comme une étable, donc comme une étable d'animaux, donc c'est-à-dire que ça lui donne pas un droit sur il n'a pas de droit sur cette cour. Donc c'est une braïta qu'on verra plus loin, que l'Agma va expliquer un petit peu plus loin. Mais en tous les cas, on voit de cette et on verra que c'est l'avis de Rabbi Meir, cette récha, le début de la braïta, et l'avis de Rabbi Meir. Il considère que le goy n'a pas de propriété sur la cour. Donc ça contredit l'explication qu'ils ont donnée selon l'avis de Rabbi Meir. Et là, découlé alma dira takum lo shema dira. Donc il leur dit. Tout le monde est d'accord sur ce point-là, que l'habitation d'un goy n'est pas considérée comme une habitation, ne lui donne pas de droit sur la cour, et donc, à la base, il ne devrait pas interdire aux juifs de porter, qu'il y ait un juif ou deux juifs dans la cour, il ne devrait pas leur interdire de porter. Mais ici, la machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est concernant la xéra, shema ilman masav, de peur qu'il apprenne de la conduite du goy. Ça veut dire que, comme on va voir tout de suite, en réalité, c'est un moyen de pression que les Chachamim ont utilisé pour empêcher un juif d'habiter avec un goy, de peur qu'il soit influencé par la conduite du goy. Donc pour éviter qu'il habite avec un goy, les Chachamim ont fait en sorte que il ne puisse pas porter, en tous les cas qu'il ne puisse pas porter facilement dans cette cour, parce que ils vont lui compliquer les choses pour pouvoir porter dans la cour, parce qu'il va falloir louer la propriété du goy, et le goy ne va pas vouloir, comme on va voir, il va pas vouloir facilement accepter de louer sa propriété, donc ça va compliquer les choses aux juifs, donc il aura tendance à vouloir fuir cette situation, et donc il ne restera pas habité avec le goy. Mais il y a une machloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov savar, Rabbi Eliezer ben Yaakov pense, Kevan de Oved Kochavim Chashud Ashfichut Damim, comme les goyim sont soupçonnés de tuer, c'est pour ça que deux juifs habitent avec un goy, ça c'est quelque chose qui est courant. Parce que là, ils n'ont pas peur. Comme ils sont à deux, ils n'ont pas peur du goy. Donc c'est pour ça que là, les chachamim devaient faire une xéra, parce que c'est un cas qui peut arriver fréquemment. Et les chachamim ont fait une xéra de leur interdire de porter s'ils ne louent pas sa propriété, pour qu'ils ne restent pas habités avec le goy, pour ne pas qu'ils les influencent. Mais une seule personne, un seul juif qui habite avec un goy, c'est pas courant, parce que justement il a peur de lui, parce que un goy, on le soupçonne de tuer. Donc c'est pour ça que les Chachamim n'ont pas jugé nécessaire de faire une gzera, parce que c'est Milta de l'Oshricha. Milta de l'Oshricha lo gazur barabanan, les Chachamim ne font pas une gzera pour des cas qui ne sont pas des cas fréquents. Et Rabbi Meir Savar, Zimnim de Mikre Vedair. Et Rabbi Meir lui dit, non, mais ça peut quand même arriver. Donc les Chachamim ont quand même fait la Xéra. Ve'amru Rabbanan, et maintenant l'Agmara explique quel était donc le stratagème des Chachamim. Les Chachamim ont dit un Eruv Moïl Bimkom Akum, que un Eruv ne peut pas servir lorsqu'il y a un goy. Donc même s'ils ont fait un Eruv entre eux, le Eruv ne permet pas de porter, et le goy non plus ne peut pas faire de Eruv évidemment. Ve'en Bitul Reshut Moïl Bimkom Akum, et le goy ne peut pas non plus faire de Bitul Reshut, il peut pas renoncer à sa propriété simplement, à Tiaskir, tant que il ne leur loue pas sa propriété. Donc, qu'il ne loue pas la propriété qu'il a, dans la cour. Ve'akum lo mugar. Or, un goy refuse de, louer. Il accepte pas, en règle générale, de louer. Et donc, c'est pour ça que le juif va quitter cette cour parce qu'il va pas pouvoir porter. La Gemara demande Maïtama, pour quelle raison le goy n'accepte pas de louer? Et les mamishum de savar d'ilma atelachzuke birshuto, si tu dis que c'est parce qu'il craint que le juif ne prenne possession de sa propriété, et donc il lui prenne son bien, anicha le mandamar srirut bria bainan, et là le mandamar srirut rewa bainan maikalemema. La Gemara dit ça, on peut le comprendre, d'après celui qui dit que la location doit être une bonne location. Mais celui qui pense que il n'est pas nécessaire que ce soit une bonne location, ça peut être une location réoua, ça veut dire de faible qualité, qui n'a pas beaucoup de valeur, malgré tout ça suffit. Donc d'après lui, qu'est-ce qu'on va dire? Là, le goy ne craint pas qu'il lui prenne sa propriété, puisque c'est une location qui n'est pas vraiment forte. Deitmar, parce qu'on a enseigné, Rav Chisda Amar Sriout Bria, Rav Sheshet Amar Sriout Reua. Donc on a vu effectivement qu'il y a une machloquette. Rav Chisda pense qu'il faut une bonne location. Rav Sheshet dit non, on peut faire même une mauvaise location. Maï Reua ou Maï Bria. Mais on me demande qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise location, qu'est-ce que ça veut dire une bonne location. Il est ma Bria Beprouta, Reua Beprouta, Michel Beprouta. Si tu veux dire qu'une bonne location, c'est une location avec la valeur d'une Prouta. Donc c'est la valeur d'une pièce qui une valeur minimale. Il faut une valeur minimale d'une Prouta, c'est ça qu'on appelle une bonne location. Et une Sriout de Reua, une mauvaise location, c'est moins d'une Prouta. Miika le Mandamar, Meakum Beprouta, Michel Beprouta, l'eau. Est-ce que quelqu'un peut penser qu'on ne peut pas louer la propriété du goy avec moins de la valeur d'une Prouta? C'est pas possible, forcément tout le monde est d'accord avec ça. Vashalach Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yaakov bar Giori mishmei de Rabbi Yochanan, puisque Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yaakov bar Giori a envoyé un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, et vous yodim shesochrim min haakum afilu pachot mishmei de Prouta, sachez que on peut louer d'un goy même avec moins de la valeur d'une Prouta. Ve'amar Rabbi Chia bar Abba amar Rabbi Yochanan, et par ailleurs Rabbi Chia bar Abba a dit au nom de Rabbi Yochanan, ben Noach ne'erag al pachot mishmei de Prouta. Velo nitane shavon. Les goyim ont 7 mitzvot, et s'ils transgressent ces mitzvot, ils sont chayav mita. Une des mitzvot, c'est l'interdiction de voler. Et pour un goy, même s'il vole moins de la valeur d'une pruta, il est tué, on le tue. Donc même s'il vole, même si c'est pas la valeur d'une pruta, donc ça veut dire que pour un goy, même moins d'une pruta, ça a de la valeur. Et deuxièmement, velo nitane shavon, il ne peut pas le rendre. C'est-à-dire que le fait de rembourser, contrairement au juif qui a la possibilité, quand il a volé, de réparer en rendant ce qu'il a volé, le goy n'a pas la possibilité, mais même s'il rend ce qu'il a volé, il sera quand même condamné à mort. Donc on voit que moins d'une pruta a de la valeur aussi pour un goy. Donc c'est pas possible de dire que quelqu'un pense qu'on ne peut pas louer avec moins d'une pruta d'un goy. Donc qu'est-ce que ça veut dire Sriout Bria et Sriout Reua? Et la Bria, Bemoarke Bavogane. Qu'est-ce que c'est une bonne location? Une bonne location, c'est une location qui lui permet de remplir la cour avec des bancs et des chaises s'il a envie. Donc c'est-à-dire que il doit obtenir l'autorisation du goy de pouvoir remplir la cour avec tout ce qu'il a envie. Alors que Reua, Belo Moarke Vela Bourgane. Alors qu'une mauvaise location, c'est quand il loue du goy, mais il ne lui demande pas l'autorisation de remplir la cour avec des meubles, donc des bancs ou des chaises, et donc c'est ça la machloquette entre Rav Chisda et Rav Sheshet. Rav Chisda pense que il faut une location qui lui permet de remplir la cour de meubles, alors que Rav Sheshet pense que c'est pas nécessaire. Et la Gemara dit Hanichal man d'amar sriout bria bainan. Alors on comprend bien pourquoi le goy ne veut pas louer s'il faut une sriout bria, s'il faut obtenir de lui qu'il accepte qu'on remplisse la cour de meubles. Ça, évidemment, il l'accepte pas facilement. Et là, le mandamar sriout reua bainan maïk alemema. Mais d'après Rav Sheshet qui dit que il suffit d'une mauvaise sriout, même s'il lui demande pas l'autorisation de remplir la cour de meubles, malgré tout, c'est valable. Donc, pourquoi est-ce que le goy s'y opposerait? Il m'a dit, afilo achi chayish akum lekshafim velo mugar. Malgré tout, le goy craint les sorcelleries, et c'est pour ça qu'il ne loue pas. C'est-à-dire que quand le juif vient pour lui louer sa cour, et qu'il comprend pas exactement quel est le but de cette location, donc le goy soupçonne le juif de vouloir faire des sorcelleries. C'est pour ça que il va lui louer sa propriété dans la cour, et donc il a tendance à refuser de louer. Et même s'il accepte, il le fait que pour un Shabbat, pas pour plusieurs Shabbatot. Donc finalement, ça va dissuader le juif de rester habiter avec lui, parce que il va pas pouvoir porter tout le temps, tous les Shabbatot, dans cette cour. Goufa. Alors, Gmar revient maintenant à la Braïta qu'elle a citée plus haut. Chatzero Shalovet Kochavim Areu Kedir Shel Behema. Donc, on a dit que la cour d'un goy est considérée comme une étable qui est destinée aux animaux. Donc, ça veut dire que il n'y a pas plus de valeur de propriété qu'une étable des animaux. Umutar Lechnis Uleotim Il Chatzer Labatim ou min batim la chaser. Et ça veut dire donc que lorsqu'on a une cour qui est habitée par des goyim, donc il y a plusieurs maisons de goyim dans cette cour, s'il y a un juif qui est de passage là-bas, qui n'habite pas là-bas, et qui se trouve et qui rentre dans une de ces maisons pour un Shabbat, il a le droit de sortir des objets des maisons vers la cour et inversement. Donc ça veut dire que cette cour, on considère pas qu'il y a des propriétés qui sont privées et une propriété commune, mais c'est comme une seule propriété, donc un juif qui se trouve là-bas peut sortir librement des objets des maisons vers la cour et de la cour vers la maison. Ve'im yasham Israël echad oser divrei Rabbi Meir. Et s'il y a là-bas un juif qui habite avec les goïms, il empêche de déplacer des objets des maisons des goïms vers la cour. C'est l'avis de Rabbi Meir. Par contre, comme on va voir par la suite, de la maison du juif vers la cour, ce sera permis. Ce qui est interdit, c'est seulement de la maison des goïms vers la cour. Là, on considère que la cour est la cour du juif, la maison est la maison du goï, donc on n'a pas le droit de sortir de la maison du goï vers la cour du juif. Mais de la maison du juif vers la cour du juif, c'est permis. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Léolam eno oser ad shiyu shnei Israelim osrim ze al ze. Il ne sera jamais interdit de sortir des objets de la maison des goïms vers la cour, tant qu'il n'y a pas deux juifs qui habitent dans cette cour et qui s'interdisent mutuellement de porter tant qu'ils n'ont pas fait de hérouf. Agma a dit Amarmar, donc le Tana de la Breita a dit, Chatsero shalakum areu kedir shel beima. Donc Rabbi Meir a dit que la cour du goï est considérée comme une étable, et donc on a dit que il n'interdit pas du tout, et même quand il y a un juif qui habite avec lui, Rabbi Meir a dit que on a le droit de porter de la maison du juif vers la cour, mais on n'a pas le droit de porter seulement de la maison du goy vers la cour. Et l'Agmara s'étonne et dit, Ve'anantna nadarim akum b'chatzer arezo oser alav. On a dit dans notre Mishnah que celui qui habite avec un goy dans la cour, le goy lui interdit de porter de sa maison vers la cour. Donc c'est-à-dire que le juif n'a pas le droit de porter de sa maison vers la cour. Donc ça a l'air de contredire ce qui est écrit dans la Breita. L'Agmara dit, la kashia, c'est pas contradictoire. Hadeite, hadelite. Notre Mishnah qui interdit aux juifs aussi de sortir de sa maison vers la cour, c'est lorsque le goy se trouve dans la cour, il est là. Par contre, la Braïta qui dit que le juif a le droit de sortir de sa maison vers la cour, c'est quand le goy n'est pas là, le goy est absent, et s'il y a donc un autre juif dans la cour, on n'aura pas le droit. S'il y a un goy et un juif qui habite dans cette cour et que le goy est absent, là effectivement le juif a le droit de sortir de sa maison vers la cour. Alors que si c'était un autre juif qui habitait avec ce juif, même si le juif est absent, il continue à interdire à ce juif de sortir de sa cour, de sa maison vers la cour, s'ils n'ont pas fait un hérouv ensemble. Agma demande où Maïka Savar. Mais alors, qu'est-ce que Rabbi Meir pense? Ika Savar dira Belo Pealim Shema dira. S'il pense que une habitation, même sans propriétaire, c'est-à-dire même si le propriétaire est absent, est considérée quand même comme une habitation, et donc il a toujours une part dans la cour, à Filoa Kumna Minitsa. Donc même le goy devrait interdire, puisque quand il est présent, tu dis qu'il interdit aux juifs de porter de sa maison vers la cour, donc même quand il est absent, il devrait lui interdire. Ika Savar dira Belo Pealim Shema dira. Et si Rabbi Meir pense que une maison sans propriétaire, c'est-à-dire que si le propriétaire est absent, ça s'appelle pas une dira et ça interdit pas de porter, Afilu Israël Nami Lolitsa. Alors même si c'était un juif qui habitait avec ce juif, il devrait pas lui interdire quand il est absent. Donc pourquoi est-ce que un juif qui est absent continue à interdire à l'autre juif de porter de sa maison vers la cour, alors qu'un goy qui est absent ne lui interdit pas de porter de sa maison vers la cour? Et ma réponse, Léolam Kassavar dira Belo Bealim Lo Shema dira. On peut toujours dire que Rabbi Meir pense que une maison qui n'est pas habitée, c'est-à-dire que le propriétaire est absent, ça s'appelle pas une dira. Alors si c'est comme ça, pourquoi est-ce que lorsque c'est un juif, il continue quand même d'interdire? Mais Israël, dès qu'il était à ça, qu'il était Gazroubé Rabbanan, un juif que quand il est là, il interdit véritablement à l'autre de porter, parce qu'il a une propriété dans cette cour. Donc même quand il est absent, les Chachamim ont fait une xéra et ont interdit même dans ce cas-là. Akum dechiete xera shema ilmad maasav. Alors que le goy, que même quand il est là, la raison pour laquelle on interdit, c'est de peur que il soit influencé par lui. C'est pas par rapport à sa propriété dans la cour, parce qu'on a déjà dit que la propriété le fait que le goy habite ne lui donne pas une propriété sur la cour. Il n'est pas considéré comme habitant de la cour par rapport au Hérouf, bien entendu. On ne parle pas par rapport à la propriété financière, ça lui appartient, mais on parle par rapport au Hérouf. Mais donc, puisque il n'a pas véritablement de propriété sur la cour par rapport au Hérouf, et que c'est seulement les Chachamim l'ont interdit, ont exigé qu'on lui loue sa propriété seulement pour ne pas qu'on soit influencé par lui. Donc, qui était Assar, qu'il était le Assar. Les Chachamim l'ont interdit seulement quand il est présent, mais pas quand il est absent, parce que ce serait une sorte de Xéra l'Xéra. Alors, Seton, elle dit, mais qui était le Assar, mais quand le Goy n'est pas là, il n'interdit pas, Vatnan. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit, Amani achad beto alachlo lishvot beir acheret, echad nochri vechad israel oser, dit Rabbi Meir, que celui qui sort de sa maison, qui quitte sa maison, et qui va passer Shabbat dans une autre ville, que ce soit un goy ou un juif, il continue d'interdire aux autres habitants de la cour de porter. C'est l'avis de Rabbi Meir. Donc on voit ici clairement que même un goy qui est absent, il continue d'interdire. Rabbi répond, atam date beyome, là-bas, on parle du cas où il peut revenir le jour même. Et donc, on craint qu'il va revenir le jour même. Si on leur permet de porter tant qu'il n'est pas là, ils risquent de revenir, ils vont pas se rendre compte qu'il est revenu, et ils vont continuer à porter. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Alakha ki Rabbi Elazar ben Yaakov, la Alakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov, ça veut dire que on peut même l'enseigner en public dans les cours de Halachot, que la Alakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov, que c'est seulement quand il y a deux juifs que le goy les empêche de porter et qu'ils doivent louer sa propriété, mais s'il y a un seul juif, il peut porter. Ravuna amar minhag ki Rabbi Elazar ben Yaakov. Ravuna dit, c'est seulement minhag, seulement une coutume comme Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est-à-dire qu'on ne l'enseigne pas dans les cours de Halachot, seulement celui qui vient nous poser la question, qui est confronté à une situation pareille, on lui dira que pour une seule personne, un seul juif, c'est permis, pour deux juifs, c'est interdit, ils doivent louer la propriété du goy. Rabbi Yochanan amar na'agu ha'am ki Rabbi Elazar ben Yaakov. Alors que Rabbi Yochanan dit que les gens ont l'habitude de faire comme Rabbi Elazar ben Yaakov, c'est-à-dire, d'après lui, c'est seulement si quelqu'un le fait, on ne l'empêche pas de le faire, mais sinon, quand on nous pose la question, on dira que c'est assourd, même pour une seule personne. Amar le Abaye le Rav Yosef. Abaye a dit à Rav Yosef, Kaimalan Mishnah de Rabbi Elazar ben Yaakov, Kav Venaki. On a un principe que l'enseignement de Rabbi Elazar ben Yaakov dans la Mishnah, et cave, c'est-à-dire c'est une petite quantité, comme cave qui est un petit volume, donc il y a peu d'enseignements de Rabbi Elazar ben Yaakov dans la Mishnah, mais c'est naki, c'est propre, ça veut dire que à chaque fois la halakha est comme lui. Ve'amar Rabbi Yehuda Shmuel halakha ki Rabbi Elazar ben Yaakov, et par ailleurs Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Mahu le'ruye bimkom rabo. Alors il lui pose une question, à partir de là, est-ce qu'un talmid a le droit de trancher la halakha comme Rabbi Elazar ben Yaakov en présence de son rav? Normalement, un élève n'a pas le droit de trancher la halakha en présence de son rav. Quand il est auprès de son rav, il doit laisser donc l'honneur à son rav, et donc quand il y a des questions de halakha, il n'a pas le droit d'y répondre, il doit les envoyer chez le rav. Mais là, la question de Abaye à Rav Yosef, c'est quand on a quelque chose d'aussi évident que ça, puisqu'on a des principes très clairs que la halakha est toujours comme Rabbi Elazar ben Yaakov, et par ailleurs, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, a tranché aussi clairement que la halakha est comme Rabbi Elazar ben Yaakov dans notre cas. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut même statuer pour quelqu'un qui vient me poser la question? Est-ce qu'on peut lui répondre même en présence de son rav? À Marley, Rav Yosef lui a répondu, « Afilu biata bekutra baoumine merav chiza kolchene de ravuna veloore. » Il a dit même une halakha aussi simple que « Est-ce qu'on a le droit de manger un œuf dans du koutar ?» Koutar, c'était une sorte de sauce qui était faite avec du lait. Donc, il contenait du lait. Et même une question aussi simple, c'est évident qu'il n'y a pas d'interdiction de consommer l'œuf avec du lait. Mais malgré tout, on a posé la question à Frisda, et pendant toute du vivant de Ravuna, jamais Rav Frisda n'a accepté de répondre même à une question aussi simple. Amar le Rav Yaakov Baraba le Abaye. Rav Yaakov Baraba a demandé à Abaye, Kigon Megillah Ta'anit Dektiva Umancha, Maou le rouillé batra des rabais. Donc il lui a posé la question, il lui a dit, si c'est une question concernant Megillat Ta'anit, qui est écrite et posée, qu'est-ce que ça veut dire? Megillat Ta'anit, c'est une sorte de braïta dans laquelle sont cités tous les jours qui sont considérés un petit peu comme des Yam Tovim, à cause d'événements qu'il y a eu pendant ces jours-là, des événements joyeux, donc qui en ont fait des Yam Tovim. Et donc, c'est des jours où on n'a pas le droit de jeûner. Plus tard, ces jours-là ont été annulés, cette Megillat Ta'anit a été annulée. Mais donc, à l'époque où elle était encore en vigueur, donc cette Rabbi Yaakov Barba demande à Abaye, est-ce que quelqu'un qui poserait une question concernant un jour qui est rapporté dans Megillat Ta'anit, donc c'est écrit et c'est posé, on peut le consulter, il n'y a pas de c'est pas un psaque, on n'a pas besoin de trancher, c'est des choses qui sont déjà écrites clairement. Et Rashi explique qu'il a posé la question par rapport à Megillat Ta'anit parce que c'était les seuls halakhot qui étaient écrites à l'époque, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire. On n'avait pas le droit d'écrire la Torah chez Baal Peh. Après, on a permis de le faire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres halakhot qui sont écrites. Mais la question, c'est en tous les cas, quand on a une halakha qui est claire et qui est écrite, et il s'agit seulement de consulter le livre pour savoir ce qui est écrit, est-ce qu'on a le droit de l'enseigner dans la région de son rav, là où se trouve, dans la ville de son rav, là où son rav se trouve? À Marley, Abaye lui a répondu. Donc il lui a répondu par rapport à ce que la réponse qu'il avait déjà reçue de Rav Yosef, Achi Amar Rav Yosef, voilà ce que Rav Yosef a dit, Afilu Beata Bekutra Baou Minem Rav Chisda Kol Shene de Ravuna Velo Ore. Que même une question aussi simple que est-ce qu'on a le droit de manger un œuf avec du koutar, on a demandé à Rav Chisda et pendant toute la vie de Ravuna, il n'a pas voulu statuer là-dessus. Donc ça veut dire que on n'a pas le droit d'être posek la halakha devant son rav, même dans un cas pareil.